Oui, bah, merci à tous d'être venus pour cette rencontre informelle. On est super heureux de venir en quartet. Comment se présenter ? Il y a Gauthier Garrigue qui est tout à droite, qui joue de la batterie. Florent Nice qui est contrebassiste. Maxime Sanchez qui est pianiste. Et moi, je m'appelle David Enco et je suis trompettiste. On vient vous présenter ce soir notre deuxième disque qui est sorti il y a quelques mois, en septembre dernier, qui s'appelle Layers. Voilà, c'est un groupe qui existe depuis 4 ou 5 ans. On s'est rencontrés dans divers contextes, dans des conservatoires, en finissant nos études, en faisant ce qu'on appelle des sessions. Voilà, et moi j'étais déjà venu deux fois. La première fois c'était il y a peut-être 7 ans, donc je suçais encore mon pouce. Et j'étais venu avec mon petit frère qui est pianiste, qui s'appelle Thomas Enco, et avec deux amis d'enfance, Nicolas Charlier qui est batteur, et je crois que c'était Zachary Abraham à la contrebasse. Donc on avait fait un concert au casino de Briançon, en première partie de Steve Grossman. Et puis je suis revenu il y a 4 ou entre 3 et 5 ans, je sais plus très bien, mais avec un super guitariste qui s'appelle Pierre Achache. Et donc voilà, et cette fois avec un groupe qui me tient beaucoup à cœur, parce que c'est vraiment une musique qu'on aime énormément faire tous les 4. C'est une musique qui est d'aujourd'hui, dans le sens où c'est un jazz qui est très influencé par évidemment toute l'évolution du jazz depuis un siècle. Donc on retrouve les racines de cette musique dans celle qu'on joue aujourd'hui, mais qui est aussi influencée par beaucoup d'autres styles musicaux qu'on n'entendait pas il y a un siècle, sauf la musique classique évidemment, mais de la musique qui sort aujourd'hui, de la musique dite actuelle. Alors ça peut être autant de la pop que du rock, que du rap, que du hip-hop, n'importe quel style de musique. Voilà, on écoute beaucoup de choses très différentes, et on a tous les quatre d'ailleurs des goûts assez différents. Et on se retrouve au sein de ce groupe pour lequel on compose tous. Alors il y a bien sûr pas mal de mes compositions, mais il y en a aussi de Florent, de Gauthier, de Maxime. Et donc on écrit de la musique qui, dans la plupart des cas, le plus mélodique possible. Notre but principal, c'est de faire de la musique qui soit mélodique et belle. Est-ce que je peux donner des références pour... Dans le jazz, par exemple, dans les trompettistes, moi, ceux dont je suis vraiment absolument fan et qui sont très très différents, c'est par exemple Miles Davis d'un côté et Chet Baker de l'autre. Ce sont deux styles qui sont vraiment très éloignés l'un de l'autre, mais qui ont pour terreau commun la mélodie. C'est vraiment quasiment toujours le point de rencontre entre toutes les influences qu'on a. Miles Davis, un courant que j'ai préféré, c'est la période de son second quintet. C'est la période pendant laquelle il joue avec Wayne Shorter, avec Herbie Hancock, Tony Williams et Ron Carter. C'est l'époque des CD comme My Funny Valentine Live, comme Footprints, Pinocchio, tous ces morceaux qu'il jouait, tous ces disques qu'ils ont sortis avec ce quintet, qui est un jazz extrêmement vivant en fait. Une autre chose qu'on aime énormément dans la musique et qu'on développe le plus possible dans ce qu'on fait, c'est l'interaction qu'il peut y avoir entre nous. Donc évidemment ça passe en très 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 grande partie par l'improvisation et le fait d'être libre dans l'improvisation. Mais être libre dans l'improvisation, ça veut évidemment pas dire faire n'importe quoi. En fait, pour être le plus libre possible dans l'improvisation, il faut pousser le travail de l'écoute, c'est-à-dire être capable déjà d'écouter les autres pendant que nous-mêmes on est en train de jouer, d'écouter les propositions artistiques qu'ils vont faire. Alors ça peut être des propositions mélodiques, ils vont jouer un motif mélodique qui va nous plaire et nous on va le réutiliser en jouant, ou alors un motif rythmique. C'est de jouer les uns avec les autres en interagissant toujours les uns par rapport aux autres et pas tout le monde par rapport à une personne. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais c'est-à-dire qu'il y a toujours une notion de soliste et de musicien qui accompagne, mais ces postes-là sont interchangeables. C'est-à-dire que tout au long d'un morceau, ça n'arrête pas de bouger. Tantôt, tout le monde improvise en même temps. Tantôt, trois en accompagnent un autre. Tantôt, quelqu'un va jouer tout seul. Enfin, ça bouge tout le temps. Donc, c'est une musique qui est mouvante, en constante évolution. Et ça, c'est quelque chose qu'on recherche énormément. C'est ce qui nous intéresse le plus dans la musique. C'est ce qu'on peut créer à quatre qu'on n'aurait pas pu créer tout seul. Et toujours avec cette optique de la mélodie. De faire une musique qui est complexe. C'est complexe parce qu'il y a beaucoup d'éléments différents. Mais de la rendre le plus accessible possible. Autant à des gens qui sont fans de jazz et qui connaissent par cœur les codes de cette musique. Qu'à des gens qui ne connaissent pas du tout. Mais qui vont quand même pouvoir être touchés par ce qu'on propose. Ça qu'on essaye de faire.
Une large audience.
Oui, c'est ça. C'est réussir à faire une musique exigeante tout en la rendant le plus populaire possible. Et attention, populaire, ça ne veut pas dire populiste. populaire, ça veut dire pour que n'importe qui puisse l'apprécier, connaisseur ou pas connaisseur. Et c'est quelque chose qui... C'est pas toujours le cas dans la musique, que ce soit le jazz ou la musique classique ou dans les musiques dites intellectuelles. Mais bon, nous, c'est ce qu'on s'efforce de faire le plus possible. Donc voilà pour le quartet. Je sais pas si on peut vraiment en dire beaucoup plus avant que vous nous entendiez jouer. Parce que de toute façon, vous allez détester.
Non, je pense qu'elle est vraiment accessible. Tout ça que, bon, évidemment, j'écoutais pas internet, pas live, mais vraiment, c'est... Tout le monde peut venir à écouter, je pense, depuis tout petit jusqu'à la grand-mère. Et puis ici, c'est aussi un peu la tradition que les générations ici à Briançon, ils font la fête ensemble et puis c'est vraiment bien choisi.
Ah, merci. Puis dire quelque chose.
Est-ce que, donc, en fait, ce que vous produisez tous les quatre, c'est... donc il y a des phrases, j'imagine, qui sont... attendu, on va dire, et après les morceaux d'improvisation, ils sont neufs à chaque fois.
En fait, pour être plus précis, ça se passe la plupart du temps dans le cadre d'un morceau, c'est-à-dire que l'un de nous a composé un morceau, et donc un morceau c'est constitué évidemment d'une mélodie, d'une ligne mélodique, mais aussi d'une architecture en fait. Qui, il n'y a pas que la mélodie, il y a aussi l'accompagnement. Donc quand on apporte un nouveau morceau dans le groupe, par exemple, soit il est déjà très très abouti, et donc on sait exactement ce qu'on a envie d'entendre à la batterie, au piano, à la contrebasse, et on sait exactement comment on veut entendre le morceau quand tout le monde le joue, soit on arrive avec beaucoup d'idées, une mise en forme approximative du morceau, ça veut dire on se dit, on a composé le minimum, c'est-à-dire la mélodie et les accords qui vont l'accompagner. Et ensuite, on peut travailler aussi ensemble pour choisir la façon de faire sonner un morceau. Un même morceau peut sonner de mille façons différentes en fonction du style qu'on veut lui donner, de la façon de l'accompagner, de l'interaction rythmique qu'il va y avoir, des contre-champs. C'est vraiment un dosage qu'on décide ensemble. Et donc, l'improvisation, la plupart du temps, elle se fait dans le cadre d'un morceau composé. Ça veut dire que on va exposer la mélodie, le thème. Parfois c'est en plusieurs parties, parfois c'est très long, parfois c'est très court. Et ensuite, on va utiliser les accords qui soutiennent cette mélodie. On va arrêter de jouer la ligne mélodique et on va improviser une nouvelle mélodie dessus. C'est-à-dire qu'on va, on va tout d'un coup ouvrir le champ des possibles, mais avec des règles bien définies. Et la liberté qu'on a dans ce cas-là, on la crée grâce aux contraintes qui sont donnés par justement les accords qui sont imposés, mouvement rythmique, le fait que ça soit un morceau à 3 temps, 4 temps, 5 temps, etc. Tous ces paramètres font que ça met des contraintes et on construit à partir de ces contraintes. En fait, ça pose les fondations. Si on devait faire un rapport avec l'architecture, on pose les fondations. Ensuite, on construit autour une maison ou quelque chose dans une forme qu'on invente. Ça, c'est une forme d'improvisation, par exemple. Et il y a une autre forme d'improvisation qui est de l'improvisation libre. Alors on peut appeler ça du free jazz, mais je ne sais pas si c'est un terme qui convient vraiment, parce que free jazz, ça veut dire ça peut tout vouloir dire. Le free jazz, ça peut aller de la musique totalement brutiste à quelque chose d'extrêmement développé sur le plan mélodique et harmonique. Donc je ne sais pas si... Donc musique improvisée, ça sera en fait une musique dans laquelle on ne s'est pas donné de règles au début. C'est-à-dire que on crée la musique vraiment de zéro. Et là, c'est l'inconnu. On part totalement dans l'inconnu parce que souvent, il y a un musicien qui commence quelque chose, qui donne une impulsion, et les autres vont commencer à réagir et à construire sur cette proposition. Soit ils vont choisir de partir dans la même direction que ce qu'a proposé le premier musicien qui a commencé, soit ils vont décider de partir dans une direction totalement opposée. Alors tout ça, ça paraît très abstrait quand on en parle comme ça, mais en fait, dans la musique, ça l'est pas du tout. C'est vraiment une question d'interaction, exactement comme dans une conversation. Par exemple, quand on rencontre quelqu'un par hasard et qu'on se met à parler avec cette personne, on n'a pas prévu en avance ce qu'on allait dire. Et du coup, dans la musique, c'est exactement la même chose. Ça peut être exactement la même chose.
J'ai une question par rapport à l'album, où il y a beaucoup d'interludes. Et je m'étais posé la question, est-ce que c'était pas un album que vous aviez composé avec une volonté de le faire quelque chose d'un peu d'une traite, ou un peu comme des concept albums des fois qui ont été faits dans le rock ou des choses comme ça, ou si c'était juste un truc de se dire on fait des liaisons entre les morceaux pour rendre une homogénéité.
Ouais, alors c'est pas du tout un concept album. C'est même tout le contraire. En fait, ce qui s'est passé pour cet album, c'est que, alors, on l'a enregistré, il est sorti en septembre 2014 et on l'avait enregistré en novembre 2013. Et donc, pendant l'été 2013, on a pris la décision d'enregistrer un nouveau disque quelques mois plus tard. Et donc, chacun s'est mis à écrire de la musique dans son coin. On a préparé des idées qu'on allait ensuite amener en répétition pour les mettre en forme et leur donner une direction à ces idées et à cette musique. On a fait un choix dans tout le matériel qu'on avait à disposition. On a choisi ce qui nous plaisait le plus. À partir de là, on a réfléchi à la meilleure façon de raconter une histoire. Parce que quand on va écouter un concert ou quand on écoute un disque, il y a une sorte, même si c'est que de la musique, il y a une sorte de dramaturgie qui est créée, à laquelle on peut adhérer ou ne pas adhérer, qu'on peut comprendre ou ne pas comprendre, peu importe, chacun y voit, y trouve un petit peu ce qu'il souhaite. Et du coup, dans un disque, je pense que c'est la même chose, il y a des dynamiques qui sont créées. Donc c'est une histoire sur laquelle on met pas de mots. Chacun comprend ou chacun y projette ce qu'il souhaite. Mais on réfléchit beaucoup en termes de dynamique et d'émotion. Ça veut dire comment ouvrir un disque, comment ouvrir un concert, comment commencer une histoire et comment la terminer. Et ensuite, donc souvent on choisit comme ça. Moi j'imagine beaucoup des chapitres en fait. Des chapitres d'une histoire qu'on raconte, qui n'a pas forcément de sens, ça peut être une histoire qui veut rien dire du tout, mais qui fait voyager l'auditeur, non pas à travers des images ou à travers des mots, mais à travers des émotions. Donc c'est comme ça qu'on construit on a construit notre disque. Après, chaque musicien a vraiment une méthode différente à chaque fois. Certains musiciens écrivent toute la musique de leur disque eux-mêmes. Moi, j'ai eu envie de partager ça avec les autres musiciens du groupe. Donc on a tous apporté de la musique, et en fait, après on a fait le tri, et on a choisi ce qui nous plaisait le plus à tous les quatre. Une sorte de démocratie dans le choix. Exactement. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des choses très très différentes dans ce disque. Il y a autant des morceaux qui sont extrêmement... je sais pas quel adjectif on pourrait choisir, mais vaporeux ou évanescents. Il y a des morceaux qui sont très extrêmement doux et qui se construisent un peu comme de la dentelle. Je pense notamment à un morceau de Florent. J'arrive plus à me souvenir du nom de la balade là. Ah oui, Oiseau de Parelli. Il faut savoir que souvent les titres sont trouvés après l'enregistrement en dernière minute parce qu'il faut bien les imprimer sur le disque. Donc il y a un morceau qui s'appelle Oiseau de Parelli qui est de Florent Nice et qui est construit sur. Je sais pas si c'est nécessaire d'en parler maintenant, mais c'est extrêmement doux, extrêmement minimaliste. C'est très très peu défini. Ça veut dire que quand on improvise sur ce morceau, il n'y a pas 1000 informations qui sont données pour poser les contraintes dont j'ai parlé tout à l'heure. Là, au contraire, la contrainte, si on veut, c'est qu'il n'y en a pas. Donc il y a un accord et on doit construire une mélodie sur un seul accord. Dans un morceau, il peut y avoir 50 accords différents, enfin peu importe, mais là, il y a plus une sorte d'indication de départ. Du coup, on a une énorme liberté pour tous s'écouter énormément. Ça crée une atmosphère qui est très particulière. Enfin, moi, je la trouve très belle, mais j'espère qu'elle vous plaira aussi. Donc voilà, il y a autant des morceaux comme ça que des morceaux qui sont plus tournés vers la pop ou le rock. Il y en a un qui s'appelle Sequences, par exemple, qui est le dernier morceau du disque, et qui est un morceau en trois parties. La première partie et la dernière partie sont une sorte d'ouverture et de conclusion, d'introduction et de conclusion, qui n'ont pas vraiment de rapport avec en tout cas rythmique au niveau du style, ça n'a pas vraiment de rapport avec le thème principal qui est la deuxième partie, la partie centrale, mais qui sont, oui, la partie centrale est très orientée vers le rock. Ça se ressent et ça s'entend particulièrement dans la façon de jouer de la batterie et de la contrebasse qui change complètement de style. Donc c'est un disque qui est assez éclectique en fait, il y a beaucoup de styles différents et qui représentent en fait beaucoup de nos influences qui sont vraiment variées. Donc voilà, pour vous présenter un peu notre parcours. Alors évidemment, on ne joue pas uniquement que dans ce quartet. Tous les quatre, on joue dans beaucoup d'autres groupes différents, avec beaucoup d'esthétiques très différentes, qui balayent beaucoup de styles dits du jazz, parce que le jazz, c'est un terme générique, comme dire classique pour la musique classique. Quand on dit ça pour la musique classique, ça balaye plusieurs siècles de création. Et ça part des chants grégoriens, par exemple, jusqu'à la musique de Schoenberg, ou voire des compositeurs contemporains d'aujourd'hui. Donc ça ne veut pas dire grand-chose. C'est pour ça qu'il y a des dénominateurs plus petits, comme par exemple la musique baroque, la musique médiévale avant ça, la musique baroque, la musique de la Renaissance, la musique classique, etc. etc. Et en jazz, c'est exactement la même chose, parce qu'en un siècle, le jazz a eu une évolution extrêmement rapide, grâce aux échanges faciles, grâce aux voyages rapides, tout ça. Là, le jazz d'aujourd'hui, c'est un jazz assez contemporain, celui qu'on va jouer. Contemporain, ça veut dire d'aujourd'hui, mais mélodique, ça veut pas dire non plus, ça va pas être ça, mais ça pourrait, ça existe. Mais on joue aussi parfois dans des groupes de jazz traditionnels, dans des fanfares, dans des groupes,
dans
les big bands, évidemment.
Effectivement, c'est une tendance du jazz. On n'est pas, c'est pas le même fonctionnement qu'un groupe de rock qui va fonctionner ensemble à l'année. Nous, on est sans cesse en train d'être dans différents contextes. Là, on joue tous les quatre ensemble ce soir. Demain, on jouera pas tous les quatre ensemble, etc. Et donc, c'est un autre mode de fonctionnement qui a ses richesses aussi, parce qu'on est amené à jouer avec beaucoup de monde. Rien qu'à nous quatre, il y a quand même pas mal de combinaisons possibles. Et ces combinaisons font déjà, là, en y réfléchissant rapidement, 3, 4 ou 5 groupes, je sais pas. Voilà. Par exemple, avec Gauthier, on a déjà dû jouer, je sais pas, 5, peut-être 10 groupes ensemble. Avec Max, on s'est déjà vu dans 2-3 formations. Voilà. Donc on est sans cesse dans différents contextes et c'est ce qui fait aussi cette idée de collectif. C'est que déjà nous 6 plus des éléments extérieurs, ça fait des combinaisons infinies. Donc voilà pourquoi pour l'instant on se limite à notre travail.
Est-ce que disait Florent à propos de des multiples groupes dans lesquels on joue. En fait, ça, c'est une raison très, très précise, c'est que aujourd'hui, le jazz s'apprend la plupart du temps dans des écoles, ce qui n'était pas du tout le cas. Je ne vais pas donner de date parce que je vais me tromper, mais il y a quelques dizaines d'années. Au début du siècle, ça c'est sûr. Les premières années, c'est vers les années 70, les premières écoles. Et du coup, maintenant, c'est ça aussi qui fait qu'il y a autant de musiciens excellents, c'est qu'on apprend très tôt. Des choses qui avant devaient s'acquérir au fur et à mesure des rencontres et du temps et de la persévérance. Dans ma famille, par exemple, mon beau-père a été pendant très longtemps Didier Lockwood. Il a été marié avec ma mère pendant 17 ans. Et lui m'a raconté que quand il apprenait le jazz, en fait, il avait des vinyles chez lui et il essayait de repiquer des choses. Et il avait des vinyles encore parce que ses parents en avaient acheté un ou deux, mais ça coûtait super cher. Donc il écoutait à la radio, il essayait de comprendre comment ça marchait. Puis il allait voir d'autres musiciens qui lui donnaient quelques petits conseils. Mais c'était un travail vraiment laborieux, super long. Nous, la chance qu'on a, c'est que aujourd'hui, il y a des écoles super performantes avec des super bons professeurs, des programmes très bien construits, exactement comme pour la musique classique en fait. Des écoles pour la musique classique, il y en a depuis super super longtemps. Pour le jazz, en fait, ça a commencé très tard. Et donc, ça fait que les musiciens de jazz qui arrivent aujourd'hui, ceux de notre génération, voire de celles qui nous précèdent, arrivent avec un bagage très très solide dans beaucoup de styles différents. Alors, ça veut pas dire qu'ils sont ultra performants dans tous les styles, mais souvent, quand on sort d'une école, on a une approche assez globale de l'histoire du jazz et ça nous donne, dans une certaine mesure, les moyens de se perfectionner dans les styles qu'on choisit. Si on veut se perfectionner plus dans un style que dans d'autres, être le moins généraliste possible. Cette possibilité de s'adapter à beaucoup de contextes différents nous donne justement l'occasion dont on parlait il y a 5 minutes de jouer dans des contextes aussi divers et variés que un trio quasiment classique, à un big band qui joue de la musique de Duke Ellington, à du jazz extrêmement contemporain. Presque, je sais pas comment on pourrait dire, de recherche. On a la chance d'avoir beaucoup d'occasions de se produire dans des contextes très différents, et c'est ça qui fait aussi la richesse des musiciens de notre génération et de celle d'avant, qui ont eu accès à cet apprentissage.
Parce qu'après, ce qui est une richesse, c'est une contrainte aussi, faut quand même avouer, c'est que je pense que si on pouvait avoir un groupe toute l'année, on le ferait, hein. C'est juste, c'est pas possible. Je fais un peu la balance aussi, c'est vrai que, c'est toujours qui de la poule ou de l'œuf, quoi. Toujours un peu ça, c'est que on est dans beaucoup de contextes parce qu'on n'a pas beaucoup. C'est maintenant très difficile. Rares sont les artistes, prenons la France, rares sont les artistes français qui peuvent se contenter de ne tourner qu'avec leur groupe. Et quand je dis rare, j'ai 3 noms ou 4 en tête et on a à peu près fait le tour. C'est une richesse parce qu'on découvre beaucoup de contextes, c'est une contrainte aussi parce qu'on n'a pas le choix. Le phénomène des écoles, hein, c'est un peu la même chose, c'est que
Il y a beaucoup d'écoles, beaucoup de musiciens qui se forment, ce qui est plutôt une belle chose. Malheureusement, oui, effectivement, ça fait déjà du monde. Et puis, il y a une chose, plus gros problème, c'est qu'il n'y a pas du tout d'opportunité pour jouer pour tous ces groupes. Et du coup, ça impacte directement. Si vous voulez, aujourd'hui, on est encore extrêmement admiratif d'un big band comme celui de Duke Ellington, par exemple. L'une des raisons, c'est qu'il jouait 6 soirs par semaine pendant des années.
Et qui tournait en bus, voilà. Il faisait le tour du monde en bus et en avion.
Ou même, David parlait tout à l'heure du quintet de Windshorter, qui arrivait à un très très haut niveau de performance et de cohésion. Après, c'est pareil, les dates qu'il faisait en un mois, nous, il nous faut 10 ans pour les faire. Donc, on doit aussi trouver de nouvelles solutions. C'est une période qui est intéressante. Voilà, donc on cherche, on fait plusieurs groupes, on crée des labels, etc. Et le jazz, effectivement, il le disait un peu David, c'est quand même en passe. D'être plus comparable à la musique classique, malheureusement, c'est-à-dire une musique, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais une musique un peu figée, plutôt qu'une musique vivante. Et nous, en tout cas, on se bat pour ça, quand bien même on fait des disques, etc., nous, ce qu'on veut en priorité, c'est qu'il y ait des gens qui viennent au concert, des gens qui puissent voir cette musique en live, parce que c'est quand même là qu'on voit cette musique. Et donc c'est là-dessus qu'il faut qu'on se batte. Je pense que c'est des paramètres importants pour nous aujourd'hui. Voilà, l'idée de la diffusion de la musique live, la pédagogie aussi, parce que je pense qu'on a un gros travail, nous, d'éducation à faire. D'ailleurs, on le fait de temps en temps avec David dans des classes d'école primaire. C'est très important de diffuser cette musique parce qu'on n'est pas... on passe pas sur Fun Radio et sur TF1, quoi.
Pas souvent, en tout cas. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé.
Et que même, voilà, à la télé, il n'y a plus d'émissions de jazz. Il y en avait encore sur M6 ou sur... C'est maintenant. Donc on a tout un retravail. On est en fait quand même dans une période très clairement où on est en lutte pour que le jazz soit pas rangé dans un tiroir. Il reste une musique actuelle, telle qu'on la considère.
Et pour faire ça, il faut, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu dis figé, je sais pas si c'est le terme qui convient, mais en tout cas, c'est une musique qui de plus en plus nécessite des clés de compréhension, en fait. C'est, encore quand on la voit en live, on peut l'apprécier parce qu'il se dégage, en général, une énergie particulière. On voit les musiciens en train de faire, en train de créer ou en train d'interpréter ce qu'ils ont composé, ou ce que quelqu'un d'autre a composé, mais en train de jouer. Mais découvrir cette musique avec des disques, c'est pas évident parce que déjà ce paramètre de l'improvisation, peu de gens savent vraiment ce que c'est que d'improviser. Quand on parle d'improvisation, souvent ça rime à faire un peu n'importe quoi et ça marche. Alors qu'en fait, bon, c'est pas du tout ça. Il y a énormément de règles, c'est un apprentissage extrêmement long et laborieux qui s'arrête jamais en fait. On est tout le temps dans une sorte de travail, de recherche. Nous, quand on fait pas de concert, par exemple, la plupart du temps, on travaille chez nous pour être le plus performant possible sur notre instrument, performant possible sur scène. C'est vrai que le jazz, c'est une musique qui, de plus en plus, dans beaucoup de ses formes, nécessite un apprentissage. Ça veut dire de savoir comment l'apprécier. Et ça, c'est un peu dommage, parce que du coup, ça la rend moins accessible au plus grand nombre. Et c'est aussi ce qui se passe dans la musique classique. Peu importe si on aime ou pas, si on écoute une symphonie de Mozart ou les Noces de Figaro, ou en tout cas une pièce très classique, là, c'est facile à découvrir, parce que c'est une musique qui est très simple, dans le bon sens du terme. Par contre, si on écoute Le Sacre du Printemps comme première œuvre dans sa vie, ou si on écoute un concerto de Bartok ou un quatuor de Stravinsky, bah là, du coup, la musique devient beaucoup plus complexe. Et pour quelqu'un qui n'est pas forcément ultra dans l'envie de la découverte, parce que si les gens qui ont envie de découvrir, peu importe ce qu'on leur fait écouter ou ce qu'on leur fait voir, ils vont voir quelque chose de positif ou au moins ils vont pouvoir se forger un avis en connaissance de cause. Mais quelqu'un qui n'est pas spécialement tourné vers la découverte, ce qui est malheureusement le cas de beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, et qui se contente de la facilité, ça veut dire de ce qu'il peut recevoir et interpréter vraiment facilement et au premier abord, et ben pour tous ces gens-là, c'est vrai que le jazz, comme la musique classique, sont des musiques qui paraissent élitistes, réservées à une certaine élite. Et en fait, c'est tellement loin de la réalité, dans la plupart des cas, que c'est contre ça qu'on essaie de lutter avec les moyens qu'on a à notre disposition. Et donc, ça passe souvent par, l'organisation d'ateliers pédagogiques avec des enfants, mais aussi avec leurs parents. Parfois, on va jouer dans les écoles et on parle aux enfants, on leur explique ce que c'est que l'improvisation, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça provoque chez les gens. On leur dit qu'en fait, l'improvisation, c'est uniquement un vecteur d'émotion.
on leur transmet des émotions en temps réel, qu'on ressent ou qu'on ressent pas. On peut aussi les mimer. On peut être comédien quand on improvise, mais on essaie de leur faire passer toutes ces petites clés de compréhension qui leur permettent de mieux comprendre ce qui se passe sur scène quand ils viennent nous voir après. Et ce qui est très drôle, c'est quand c'est eux qui font découvrir cette musique à leurs parents, et ça arrive régulièrement. Ils amènent leurs parents au concert. Voilà, dans la mesure des moyens qu'on a à disposition et que les théâtres ou les festivals mettent à nos dispositions aussi, on essaie de participer à cette éducation artistique pour les enfants, mais pas que, pour leurs parents aussi, et pour leur permettre d'avoir accès à cette musique, le jazz en l'occurrence, qui est très très riche et qui mérite vraiment d'être découverte dans la plupart des cas.
Je pense qu'il faut saluer les initiatives locales comme les vôtres, ou comme toutes les initiatives de tous les festivals qui commencent avec des gens qui sont motivés et qui, parce que c'est grâce à vous en fait. C'est plus il y a de gens qui se bougent pour faire des choses comme ça, plus les musiciens jouent, plus les gens sortent. Enfin, je sais que c'est pas évident dans la période actuelle.
On a un peu les mêmes intentions, on va dire. C'est de faire mettre en avant la musique, le spectacle vivant, la musique vivante, et de faire partager et de découvrir les choses au plus grand public. Je pense que voilà, c'est important que ce soit partagé. Mais quand je reviens sur en tant que programmateur, les quantités de projets, de choses que je peux recevoir, c'est assez hallucinant. Des choses, et pour la plupart, il y a des choses vraiment superbes, et de faire des choix ou des choses là-dedans, c'est quelque chose qui est assez difficile et draconien. Mais c'est vrai, comme tu dis, ça foisonne énormément. Dans le milieu du jazz, il y a beaucoup de super bons musiciens qui ont plein de super projets. Et on reçoit plein de choses et qu'est-ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas assez de, je pense, comme tu dis, de moments ou d'endroits où les gens ils peuvent, où les musiciens et les artistes peuvent présenter leurs projets, les mettre en avant, parce que finalement les gros festivals se contentent des grosses têtes d'affiche, parce qu'il faut faire de la place rentrée aussi, c'est important. Il en faut, hein, je dis pas, il faut tout. Et après, finalement, les diffuseurs un peu plus, on va dire, de l'échelle en dessous. Comme nous là qui diffusons des trucs, c'est, je pense il y en a, mais il pourrait en avoir plus, quoi. C'est dommage que.
Il y en a quand même beaucoup en France, c'est sûr. Hein.
Ouais, il y en a.
Mais par rapport à ce qu'il y a, comme ne serait-ce comme élève dans les classes de jazz maintenant, c'est complètement disproportionné.
Vraiment.
Mais bon, c'est pas forcément ça peut être propice à la créativité aussi, une période comme ça, mais c'est pas forcément contradictoire, mais bon.
C'est sûr.
Et voilà, tout ça pour dire qu'on est très heureux d'être là aujourd'hui et qu'on est très heureux que tu aies choisi notre groupe et qu'on espère que déjà que vous viendriez, que vous allez venir ce soir, et que si vous venez, la musique va vous plaire. On sera vraiment heureux.
Et puis le public ici, c'est des jeunes jusqu'à la grand-mère. C'est vraiment une réussite. Moi, je suis toujours épatée.
Non, c'est important qu'il y ait tous les âges. Il n'y a pas plus longtemps que vendredi soir, il y avait le représentant du département là, qui n'était encore pas venu au festival. Avant, c'était vu parce qu'on avait une réunion. Et il m'a posé la question, mais qui est-ce qui vient à votre festival comme public? Je lui ai dit, mais il y a tout le monde, de 3 à 99 ans. Il était un peu sceptique. Et puis quand il s'est retrouvé dans la salle, il a bien constaté ce que je lui avais dit. Parce que le soir d'ouverture, notamment, il y avait des enfants sur le dos, des anciens, il y avait tout le monde, quoi. Ce soir, je sais pas, j'espère.
En tout cas, merci d'être venu, parce que c'est un exercice pas facile.
Oh bah,
ce que vous exprimez avec les instruments, normalement, pas avec les mots, mais il y a toujours des choses.
On a commencé par les mots. Donc
bon, bah alors, très bien.
Non, c'était pas si dur. Merci d'être venu.
Oui, merci.
Merci.